Bienvenue dans le mag de l'environnement. Cette semaine, on met du soleil sur les toits. Ici Aurélien Cula pour le parc naturel régional Corbière-Fenouillède. Je suis à Soulatch, où l'on vient d'inaugurer le premier projet d'autoconsommation collective de la région Occitanie, porté conjointement par des habitants et une commune. Je suis avec Juliette Thévenot, chargée de mission transition énergétique au PNR. Bonjour Juliette.
Bonjour.
À tes côtés, Claude Lépineux, premier adjoint au maire de Soulatch, qui nous accueille dans la cour de la mairie, à l'ombre d'un figuier, dans le parfum des lilas et les chants d'oiseaux. Merci Claude.
Bonjour à toi.
Et nous sommes aussi avec François Bellet, président de l'association Vert Double Durable. Bonjour François.
Bonjour.
Avec nous également Jérémy Parnaudot du GAEC des Ambialades, habitant du village et producteur d'énergie renouvelable.
Bonjour.
Alors, le Vert Double, c'est la rivière qui irrigue votre village. Soulatch, c'est 128 habitants, un paysage magnifique et un projet ambitieux qui vient de voir le jour, une toiture photovoltaïque sur un hangar agricole produit l'électricité consommée en local par une miellerie, un gîte et plusieurs foyers. Alors, l'autoconsommation individuelle, on connaît. C'est la possibilité de créer sa propre électricité et de réinjecter sur le réseau notre surplus de production. Mais l'autoconsommation collective, c'est moins connu. Autorisée en France depuis une loi de 2017, elle concerne encore moins de 1000 projets en France. Et d'ailleurs, la région Occitanie fait partie du trio de tête sur le développement de ces projets. Alors Juliette, c'est quoi les conditions à remplir pour pouvoir aujourd'hui produire et consommer son électricité à plusieurs foyers et entreprises en local ?
Alors l'autoconsommation collective, c'est une manière de se répartir l'énergie entre producteurs et consommateurs, et c'est se mettre d'accord sur le juste prix de l'électricité. Quel est le prix acceptable pour le producteur, quel est le prix acceptable pour le consommateur ? L'autoconsommation collective, il y a plusieurs formes qui existent. L'autoconsommation patrimoniale, c'est une collectivité qui fait une installation et qui répartit l'énergie sur ses bâtiments publics. Et l'autoconsommation collective, dans le cas de Soulatch, c'est des habitants qui se sont organisés avec un éleveur pour partager la production de l'énergie. Et c'est rendu possible avec plusieurs ingrédients. Les ingrédients, d'abord sur ce type de projet citoyen, c'est de l'énergie humaine qu'il faut pour développer ce type de projet, et c'est également l'autorisation d'Enedis pour utiliser les réseaux et distribuer l'énergie, et c'est également le concours de plusieurs partenaires comme Elocop pour gérer la facturation auprès des particuliers. L'élément qui est important à préciser, c'est que quand on est dans un projet d'autoconsommation collective, on garde son fournisseur de complément, c'est-à-dire son fournisseur habituel, que ce soit EDF, Enercop ou autre, et ensuite on a une facture du projet en local en circuit court. Et la métaphore qu'on peut faire d'un point de vue circuit court, c'est on connaît bien les circuits courts alimentaires, on connaît bien le type d'AMAP, donc des producteurs et des consommateurs qui se mettent ensemble et qui distribuent des paniers. Et bien là, on est sur le même principe dans l'autoconsommation collective, sauf qu'au lieu de partager des tomates, on se partage des watts et on se met d'accord sur le juste prix de l'électricité.
Alors justement, est-ce que c'est intéressant financièrement pour les habitants ? Est-ce qu'il y a aussi des aides de l'État pour ce genre d'installation pour les citoyens qui veulent devenir petits producteurs pour leur communauté ?
Tout dépend de la nature des projets. En tout cas, tout projet d'autoconsommation collective, comme il est conçu en France, l'objectif, c'est de ne pas être plus cher que le tarif réglementé et de viser des économies d'énergie aussi par des pratiques de sobriété. Donc, effectivement, de baisser sa facture d'électricité. Ensuite, les aides aux installations, elles sont classiques pour des particuliers avec les aides d'État sur l'installation d'autoconsommation individuelle. Après, dans l'autoconsommation collective, il n'y a pas directement de subvention, mais en tout cas, on est sur des projets pionniers qui nécessitent ou qui ont des soutiens financiers qui peuvent arriver par ailleurs dans la gestion réglementaire, administrative.
Alors, tu as parlé de sobriété, c'est qu'aussi produire son électricité, c'est aussi devenir conscient de sa propre consommation et donc relocaliser aussi cette production, c'est aussi aller vers une prise de conscience générale et bien à terme aussi une réduction de notre production, c'est ça François ?
Ça fait absolument partie de la mission principale, première de l'association, d'encourager les gens à participer à une opération où ils ont accès à une électricité locale, mais que cette électricité, elle soit consommée d'une manière consciente. et ça induit des comportements qui aident à la maîtrise de la consommation et à aussi une certaine diminution de la consommation.
Il y a aussi même un côté presque politique, une question aussi de possibilité de s'autonomiser sur sa production énergétique. C'est intéressant pour un village comme Soulatch, Claude, d'avoir cette autonomie aussi, de pouvoir produire une partie de son électricité.
Ah bah tout à fait, hein. Ça a été le démarrage de ce projet avec le PNR, de développer ce projet-là avec du soleil sur les toits. Ça nous a intéressés, ça nous a interpellés, et par rapport aux offres qui nous ont été proposées, on s'est dit que c'était tout à fait intéressant de faire un projet public-privé par rapport à l'économie d'énergie et puis à la production d'électricité verte.
Et donc c'est pour ça que la mairie a suivi ce projet citoyen qui est né de l'initiative des habitants.
Absolument.
Alors comment ça s'est passé justement? Comment est-ce que les habitants du village se sont retrouvés finalement branchés à une toiture donc de 100 kW crête qui est installée sur le hangar de Jérémy et Anila, producteurs de fromage de chèvre dans le village? Est-ce que tu peux nous raconter, Jérémy?
Oui, alors on n'a pas créé ce hangar et cette centrale photovoltaïque pour les besoins à l'origine de l'autoconsommation collective. À l'époque où on a conçu le projet, ça n'existait même pas. Et bon, il se trouve que ce projet a pris du temps à sortir de terre. On avait besoin de ce bâtiment et on avait envisagé dès le début d'y mettre des panneaux pour pouvoir l'amortir. Et on avait un contrat EDFOA tout bête. Jusqu'à ce que des citoyens de la commune de Soulatch soient venus nous voir et nous en parler de ce projet naissant. Le PNR venait de sortir de terre et c'était l'occasion unique. Il y avait sur la commune une centrale qui était en train de se monter et la possibilité d'intégrer une opération comme ça d'autoconsommation collective. Alors ça s'est pas fait du jour au lendemain puisqu'il a fallu tout un tas de réunions. Mais en tout cas, le cadre juridique permettait désormais de le faire en parallèle d'un contrat de vente classique. Et c'est comme ça que petit à petit, avec l'accompagnement du parc naturel régional, avec le dévouement de plusieurs citoyens qui se sont vraiment investis dans le projet, on a pu finalement aboutir à ce que ce beau projet sorte de terre.
Et alors, qui est branché finalement à cette toiture, à ces 100 kW François, est-ce que ça couvre l'ensemble des besoins de ces habitants en électricité?
Ça couvre leurs besoins pendant les périodes où la luminosité est suffisante. Pour l'instant, on n'est pas très nombreux, donc tous les besoins sont couverts largement. On est environ en 37-40% de la consommation totale d'électricité de ces membres de l'association qui est couvert par l'électricité de Jérémy.
Donc dès qu'il y a du soleil, quand on allume une lumière, une bouilloire électrique ou quoi que ce soit dans une des maisons des personnes connectées, ça provient de cette toiture, c'est sûr.
On n'a pas besoin du soleil d'ailleurs, on a besoin de la lumière. Donc dès qu'il fait jour et tant qu'il n'y a pas de brouillard, ce qui peut être un problème dans nos vallées où on a du brouillard marin. Mais d'une manière générale, la luminosité est importante et garantie sur une grande partie de l'année.
Merci beaucoup déjà de nous avoir mis au courant sur les bases. On va se pencher sur la dimension essentielle du projet qui est la construction citoyenne. C'est le sens de la création de Vert Double Durable, l'association dont François Pellet est président. La co-construction citoyenne, c'était au cœur du projet qui a été accompagné par le PNR dès le début, n'est-ce pas Juliette?
Tout à fait. D'un point de vue réglementaire, les transpositions européennes ont rendu possible l'autoconsommation collective en 2019-2020. Et le PNR, dès 2021, s'est lancé dans ce type d'accompagnement avec pour objet d'aller tout de suite sur les projets les plus compliqués, les plus complexes et les plus difficiles à mettre en œuvre, c'est-à-dire l'autoconsommation collective ouverte à partir du moment où elle associe des habitants, des entreprises, une collectivité. Et donc dans la construction de l'appel à projet où on a accompagné 10 territoires pour mener à bien des projets d'autoconsommation collective. L'objectif était de répondre à cet appel à projet avec à la fois une commune, des habitants, entreprises sur le secteur. Donc c'était vraiment un objet concret avec l'intention de se dire que les projets de production d'énergie renouvelable citoyenne, c'est une façon concrète de pouvoir s'approprier les moyens de production d'énergie. Qu'est-ce qui se passe en fait d'un point de vue électricité? Qu'est-ce qui se passe derrière la prise? Et du coup, c'est quoi les enjeux d'un point de vue transition énergétique? Et donc l'exemple de l'autoconsommation collective permettait justement d'accompagner cette expérimentation avec la montée en compétence des citoyens sur ces enjeux.
Et donc pour les faire monter en compétence, notamment, vous avez emmené des citoyens de Soulac en voyage de classe,
en fait,
auprès de la première expérience nationale d'autoconsommation collective.
Tout à fait, on a pris nos petits bus 9 places et puis on a accompagné 15 personnes et on est allé dans la Drôme et donc on allait rencontrer le projet porté par une coopérative citoyenne qui s'appelle Acoprev. Et donc c'est une installation de 36 kilos qui est faite sur un hangar agricole également et qui distribue l'énergie à une trentaine d'habitants de la vallée. Et eux, leur objectif, c'était vraiment de pouvoir fournir l'électricité à au moins 50% des habitants de la vallée, donc qui représentent à peu près 8 villages. Donc là, c'était, ça fournissait une brasserie, des gîtes, des habitants. Et ensuite, on a visité un autre projet d'une coopérative, 10 watts, où eux, c'était une grande installation, il me semble, sur une scierie, avec, pareil, un partage d'énergie qui était prévu. Donc, effectivement, c'était assez incroyable comme voyage.
François, vous étiez du voyage, justement. C'est à ce moment-là que vous avez embarqué dans cette dynamique citoyenne. Dynamique citoyenne qui a été ensuite entretenue par tout un tas de réunions, d'ateliers. Comment vous avez créé aussi ce groupe ?
J'étais complètement innocent, naïf, inculte sur la question de l'électricité en général, de l'autoconsommation collective en particulier. Et j'ai découvert donc comment ça se passait dans la Drôme. J'ai découvert aussi autre chose. Et j'ai découvert un univers associatif et une entraide et une dynamique de développement qui se passait d'une certaine manière en marge du développement soit purement d'entreprises privées, soit purement étatique. Et cette collaboration entre ces différents partenaires a été très inspirante. Et bon, j'avais reçu cette impulsion de la commune de Soulac suffisamment pour m'impliquer pour aller dans ce voyage. Mais ce qui s'est passé là, ça a été une vraie décharge électrique où j'ai compris que, avec suffisamment de motivation et un intérêt pour la question ou pour les questions de la transition énergétique, on pouvait faire quelque chose, même dans un territoire très peu développé en termes d'associations comme le territoire de Soulac et de ses environs.
Et justement, comment ça a pris, comment ça a été accueilli par les habitantes et les habitants du village, ce projet? Il y a 8 compteurs pour l'instant qui sont reliés à l'installation.
Il y a effectivement 8 compteurs, c'est 6 personnes pour l'instant. Il y en a 5 qui sont dans le pipeline, donc qui sont en cours d'adhésion. Comment ça a pris? Ça a pris avec un travail fabuleux du parc et d'éclair qui a eu lieu sur de nombreux mois et sur plusieurs années, en fait, pour impliquer la population sur un projet qui était très évolutif. La géométrie du projet, en fait, a beaucoup changé pendant cette période, mais ça a permis d'impliquer beaucoup de gens dans le village.
Alors, il y a aussi un aspect important pour remporter l'adhésion d'un village, c'est de soigner l'intégration du projet dans le patrimoine, dans le paysage. Alors ici, dans les Corbières, c'est un sujet sensible. On l'a vu avec les projets d'électricité éolienne et puis de plus en plus aussi avec les panneaux photovoltaïques sur des projets agricoles. Alors, comment vous avez fait pour soigner cet impact des panneaux dans le paysage, Jérémy Parnaudot, puisque les panneaux sont sur votre hangar, comment ça a été géré ça?
Ben, on a essayé d'intégrer la totalité du projet au mieux possible dans son environnement. Donc, à partir du moment où on a décidé de porter le projet nous-mêmes, de ne pas avoir recours à une entreprise et à un investisseur qui exploite les panneaux, on pouvait faire à peu près ce qu'on voulait. Donc, on a choisi une entreprise respectueuse de l'environnement. On a travaillé un matériau noble qui est le bois, avec une belle charpente, donc un bâtiment qui s'intègre bien dans son paysage, une toiture de 2/3-1/3, on n'a pas fait du monopente. Et ensuite, on a choisi des panneaux le moins possible visibles. C'est des panneaux tout noirs, assez mat, donc qui ne réfléchissent pas trop la lumière. Voilà, on a essayé de faire au mieux possible. Et de fait, bon, on trouve que le bâtiment s'intègre bien. Il est joli, il est beau.
Et j'imagine qu'il y a aussi de nouveaux sites de production qui peuvent voir le jour dans le village.
Alors, il y a des sites de production qui sont déjà existants, des particuliers qui ont sur leur toiture des petites installations. Ces petites installations, elles peuvent rentrer dès l'année prochaine dans l'association. Mais il y a aussi des projets plus vastes qui naissent un peu partout sur le territoire. Et pour nous, il s'agit de récupérer ces projets qui naissent d'une manière spontanée et souvent qui n'ont pas une implication territoriale très importante. Et ça, c'est quand même un peu grave parce que Jérémy, je confirme, son bâtiment est très beau. Il s'intègre dans le paysage. Et je dirais, il augmente le paysage, on pourrait presque dire. Il n'y a pas beaucoup de toitures photovoltaïques agricoles qui ont cette qualité de réalisation et cette qualité esthétique. Les Corbières, c'est très beau. La vallée du Verdouble, c'est magnifique. La lumière y est fabuleuse. Il ne faut pas abîmer tout ça avec des installations. Ça serait horrible.
Alors cette démarche exemplaire, le fait aussi que Soulages soit un territoire pilote, c'est aussi grâce à l'accompagnement du parc naturel régional Corbières-Fenouillade depuis 3 ans. Juliette, qu'est-ce qui a été fait pour appuyer cet élan citoyen? Et puis aussi, ça prend place hein, dans une opération un peu plus large qui s'appelle du soleil sur les toits pour accélérer le déploiement des énergies renouvelables sur le territoire. J'imagine que c'est pas le seul projet non plus que vous accompagnez, c'est pas le seul dans les tuyaux.
Tout à fait. On a mis les personnes qui savent faire autour de la table pour accompagner et savoir animer des réunions, avoir à la fois la compétence juridique. Donc ça a été tout un travail, c'est-à-dire que la conception du projet s'est faite avec un avocat cabinet notaire pour la rédaction des statuts. C'est faite également, on leur a donné des travaux, des cahiers de vacances pour faire ce travail justement juridique et se poser les bonnes questions, c'est-à-dire déterminer la ligne politique de Verdouble durable. Ensuite, au niveau du parc, effectivement, c'est pas le seul projet et dans la stratégie de développement des énergies renouvelables sur site anthropisé, il y a eu cette action du soleil sur les toits. Et d'un point de vue politique et technique, l'objectif, c'est de continuer dans cet accompagnement. Et donc là, dans les tuyaux, on a plusieurs projets d'autoconsommation patrimoniale, par exemple sur la commune de La Roque-de-Fa, Luxuraude, Duchamp, et d'autres projets d'autoconsommation collective citoyens. Donc là, l'objectif, en tout cas, qui sera validé officiellement au mois de juillet en conseil syndical du PNR, ça va être de recruter une deuxième personne qui justement va pouvoir accompagner d'un point de vue technique cette ingénierie tout droit arrivée du soleil.
Alors le PNR joue un peu le rôle de chef d'orchestre, mais j'imagine qu'il y a des financeurs derrière aussi, des bailleurs de fonds qui permettent aussi à tout ça d'exister.
Tout à fait. Sur cette opération, au niveau du parc, on a été soutenu financièrement, premièrement par la région Occitanie, ensuite par le commissariat massif des Pyrénées, et ensuite par l'ADEME, donc qui est l'agence transition écologique au niveau de l'État. Et on a évidemment eu le concours sur l'action du soleil sur les toits, des syndicats d'énergie, le CIDEL, le CIADEN, de la Banque des Territoires, et en partenariat avec Éclair Occitanie également.
Bon, merci beaucoup pour toutes ces précisions et puis pour les perspectives aussi. On espère que le soleil continuera d'alimenter les foyers des Corbières. Merci à Claude pour l'accueil à la mairie de Soulages. Merci aussi à François et à Jérémy pour leurs précieuses explications. Et merci à toi, Juliette, pour cette fenêtre ouverte sur le patient travail mené par les agents du PNR pour accélérer la transition énergétique sur le territoire.
Merci.
Pour en savoir plus sur les actions et les animations du parc naturel régional Corbières-Fenouillade, rendez-vous sur la page Facebook, sur les applications Panneau Pocket et Iliwap, et bien sûr sur le site parc.corbières-fenouillade.fr. Le mag de l'environnement s'est terminé pour cette semaine. Cette émission a été préparée et présentée par Aurélien Cula. Montage additionnel réalisé par Philippe Co pour RCF Pays d'Aude. N'oubliez pas de profiter du soleil, prenez soin de vous et à la semaine prochaine.
C'était le MAC de l'environnement, le magazine de la protection de l'environnement et du développement durable. Une coproduction des radios locales de l'Aude. Contact FM, Radio Balade, Radio Lingodoc Narbouno, Radio Marseillette, RCF Pays d'Aude.